La première fois que j'ai entendu Alice Pfeiffer parler de mode, j'ai eu l'impression qu'une anthropologue me racontait les mœurs d'une tribu étrange. Je comprenais pas grand-chose. Il y avait déjà un problème de vocabulaire, des noms de vêtements, de gens, de marques que je connaissais pas vraiment. Mais surtout, elle s'est mise à raconter la mode sur Instagram.
De la porte.
Les influenceurs, les communautés, ghetto gothique, C-punk, les nouvelles pratiques, j'étais assez largué. Bon, je connais pas très bien la mode, mais ça m'intéresse. Enfin, disons que je n'ai aucun mépris pour la mode, et d'ailleurs je pense toujours à une superbe tirade de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, quand elle sent que sa nouvelle assistante, qui est jouée par Anna Thaoué, une wannabe journaliste un peu intello qui s'habille comme une vieille dame, sourit avec une forme de condescendance à une de ses remarques.
Vous regardez dans votre placard, et vous choisissez, tiens, tenez, ce pauvre vieux pullover par exemple. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. En fait, il est bleu céruléen. En 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues.
Bon, elle a pas complètement tort, mais elle strip. Mais quand même, quand je revois Le Diable s'habille en Prada, je me dis que le film décrit l'ancien monde de la mode, avant Instagram, avant les influenceurs, les influenceuses. C'était un monde où les rédactrices des grands magazines régnaient sans partage. Donc, j'ai voulu discuter avec Alice Pfeiffer pour qu'elle me raconte vraiment ce qu'est le monde de la mode aujourd'hui. Avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les innombrables sites de vente en ligne qui font de la fripe haut de gamme. Bon, Alice, aujourd'hui, elle écrit pour les Inrecuptibles, mais aussi pour les journaux anglophones comme Le Guardian. Elle a fait des études en Angleterre, ce qui explique son très bel accent, malgré son rhume carabiné.
Désolée, ça s'entend beaucoup.
Le code a changé.
Quand elle arrive, elle a un joli pull, et comme assez bêtement, je crois qu'il faut toujours complimenter sur ses vêtements quelqu'un qui travaille dans la mode, je lui dis.
Enfin, j'aime, c'est Avenir, qui est la marque du rappeur Orelsan.
Ah, ok, ah, il a une marque.
Ouais, gender neutral, quelle ironie.
Bon, j'ai ri, mais je ne savais pas qu'Orelsan avait une marque de vêtements. Je me souviens même que je l'ai vu récemment interviewé à la fin d'un défilé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Orelsan? Alors, je comprends maintenant. Bon bref, on n'est pas là pour parler du pull d'Alice et d'Orelsan. Commençons par ce qu'il y a de plus emblématique dans la mode, le défilé. Alors on le sait, et je l'ai éprouvé je crois une seule fois ou deux peut-être dans ma vie, un défilé c'est très codé. On poireaute des heures, ça commence en retard parce que les seules personnes vraiment importantes s'en foutent des horaires. Les gens entrent selon un ordre très précis, les places sont ultra hiérarchisées, on attend un nouveau et puis paf, ça dure un quart d'heure et c'est fini. C'est vraiment bizarre. Mais moi, j'ai connu ça dans un autre siècle. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, vu l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et notamment Instagram, quelque chose doit être un peu bouleversé dans la manière dont ils sont organisés ces défilés.
Il y a un parterre de photographes de mode qui prennent la vue de face, donc complètement de face, et pensé pour être retranscrit sur un rectangle sur Instagram. Du coup, ça veut dire que ce qui se passe sur les côtés et ce qui se passe à l'envers du vêtement, on le voit plus du tout, parce que c'est pas du tout pensé pour l'audience, mais plutôt la photo qu'elles en prendront, et surtout ce que les photographes au bout du catwalk vont prendre. Du coup, on pense les silhouettes en 2D, de face, sans mouvement, sans détail, sans tous les aspects qui font la tenue.
Mais alors, ça veut dire que les mannequins bougent différemment. Bon, intéressant. Il y a même, paraît-il, un passage obligé du défilé qui s'appelle l'Instagram moment du défilé. Bon, le moment conçu pour être instagrammable. Mais est-ce que ça veut dire que les vêtements sont conçus pour être vus de face et pas de dos ?
Tout à fait, quoique il y a maintenant la naissance du belfie qui est le butt selfie, qui est un bâton où on tient son téléphone portable, qui est replié, qui est courbé pour qu'on puisse prendre ses fesses en photo.
Non.
Mais sinon, oui, le belfie, c'est magnifique. Mais sinon, grosso modo, c'est l'idée que tout est de face comme un autoportrait, quoi.
Et les placements dans les gradins alors ? Parce que ça, c'est un énorme enjeu. On le sait, avant, c'était les directrices de grands magazines, les acheteurs et acheteuses, les stars qui étaient au premier rang. Mais alors aujourd'hui, qui est vraiment choyé ?
des Instagrammeurs, des influenceurs qui vont être au premier rang, qui sont considérés comme des espèces de célébrités interlopes, où c'est pas vraiment des stars, c'est pas vraiment des acteurs, mais ils ont des deals directs avec des marques et vont déjà être habillés dans les vêtements de la marque qui leur a prêté les vêtements pour que eux-mêmes se mettent en scène dans les photos. Ce qui est intéressant avec les influenceurs, c'est qu'ils font ce que la presse peut pas s'admettre faire, c'est-à-dire qu'ils font des partenariats directs avec des marques.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que par exemple, ils vont porter une marque, taguer la marque en question, et tandis que tous les autres magazines sont pas vraiment censés être achetés par les marques ou sont pas censés avoir du placement de produits de la même façon. La presse féminine, c'est entièrement des publi-reportages déguisés.
Ouais.
Lui, il se cache pas du tout de faire un publi-reportage.
Mais est-ce que tu peux être influenceur ou influenceuse attaché à plusieurs marques et qui change selon les moments, je sais pas.
Oui, tout à fait. C'est chaque poste est sponsorisé par quelqu'un d'autre. Du coup, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour les plus gros pour porter les vêtements le temps d'une soirée. Et il y a un travail direct comme on l'aurait pu le faire avec les critiques de mode à l'époque. Seulement, c'est pas censé être tellement déontologique quand c'est de la presse qu'il fait, quand c'est un blogueur, t'as absolument tous les droits.
Mais là, tu décris pas de talent. C'est que ces gens, ils ont quand même un talent. Je sais pas, ça peut être leur corps, ça peut être la façon dont ils mettent en scène leurs photos, ou, enfin, tu vois, il y a quand même un talent.
En fait, ils montrent aux clients comment porter les vêtements. Donc, la styliste de mode va faire des shoots beaucoup plus over the top, comme on dit.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est du trop, que c'est illisible par une cliente lambda qui veut savoir comment porter les vêtements. L'Instagrammeur, lui, va t'expliquer comment ça peut être portable dans la vie de tous les jours. Donc, c'est la personne de tous les jours connue. C'est famous for being famous. C'est-à-dire connue pour rien, sauf comment le produit s'insère dans la vie de tous les jours.
Donc, ça n'est pas rien d'être influenceur. Et je parle pas seulement du point de vue pécunier et des questions déontologiques que ça pose. C'est pas rien parce que ça a une fonction, incarner le vêtement. C'est intéressant cette idée que l'influenceur insère le vêtement dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je comprends pourquoi les marques les paient très cher du coup. Un client, bon, ça s'imagine sans doute mieux porter un vêtement quand il le voit porté en soirée par quelqu'un qui se donne des airs de normalité que par une mannequin ou un mannequin sur une photo hyper photoshopée. Bon, c'est assez logique tout ça. Mais si on s'en tient au statut, être influenceur ou influenceuse, c'est avoir un compte très suivi, ok. Mais j'imagine qu'il y a des catégories que tous et toutes ne se valent pas.
Voilà, il y a deux choses. Il y a l'influenceur qui va être, ou l'influenceuse un peu mignonne qui va être suivie par des milliers de mecs un peu random qui la trouvent sexy. Et après, le micro-influenceur qui va avoir, entre, je sais pas, 10 et 30 000 followers, mais qui, elle, va toucher une cible beaucoup plus précise à Paris. Donc, dans.
Genre.
Par exemple, qui va être suivi par tous les journalistes de mode, qui va être suivi par quelques célébrités. Donc, qui touche un public beaucoup plus intéressant et beaucoup plus influent, mais qui en a moins.
Ok. Le micro-influenceur, j'aime assez cette idée. C'est vraiment le plus antidémocratique qui soit. Parce que on peut reprocher ce qu'on veut aux influenceurs, hein, mais au moins, ils parlent à beaucoup de gens. Tandis que le micro-influenceur, c'est vraiment l'aristocrate des réseaux. Comme quoi, bon, la promesse démocratique de l'Internet a du plomb dans l'aile. Bon, bref, le défilé est donc un événement fait pour être une expérience vécue, d'accord. Mais il est aussi imaginé pour être une expérience instagrammable. Ok, mais si tout ça est si bien organisé, le risque, c'est que ça lisse les photos instagrammées et que les photos se ressemblent toutes sur tous les comptes. Alors pourquoi aller au défilé et l'instagrammer si c'est pour poster la même photo que tous ceux qui étaient là? Le risque, c'est de se banaliser, non?
Oui, mais ça prouve qu'on y était.
Ah, c'est ça
l'essentiel. La grande différence. Ouais, l'important, c'est de montrer qu'on y a été.
Ah oui. J'oubliais que la photo a une autre fonction que montrer le vêtement ou même le défilé. Elle est là pour signifier « j'y étais ». Alors ça, c'est une question que je me pose toujours quand je regarde, par exemple, des matchs de foot et que je vois que les gens filment un moment du match. Je me dis tout le temps, mais pourquoi ces gens filment ce que la télé filme en beaucoup mieux? Quel intérêt d'avoir dans son téléphone des images mal prises, tremblantes, avec un son pourri, alors que la télévision, et il suffit pour ça d'avoir lancé un enregistrement sur sa box, hein, vous offrira une archive de bien meilleure qualité. Alors, il y a une hypothèse, hein. Les gens filment parce que ça accrédite leur présence. En tout cas, parce que c'est la preuve qu'ils y étaient, qu'ils ont participé à cet événement collectif. Alors, de ces images, ils peuvent faire un usage double, hein, à destination des autres. Tiens, regarde, j'étais au Stade de France, bon. Et un usage à destination d'eux-mêmes, se les repasser dans un moment pour se rappeler qu'on a vu ça, qu'en l'occurrence c'était bien, etc. Voilà, bon. Et pourquoi ce qui vaut pour les supporters ne vaudrait pas aussi dans le monde de la mode? D'autant qu'il y a aujourd'hui des sites qui retransmettent les défilés en live stream. Alice Pfeiffer, elle m'a parlé une fois de Now Fashion. Qu'est-ce que c'est ça, Now Fashion?
Now Fashion, c'est un site qui a été créé par le photographe de mode du New York Times, qui s'est aperçu qu'il n'était pas obligé de garder les images secrètes ou réservées, puisque tout le monde a les mêmes, et du coup qui a commencé à les streamer en live. Et aujourd'hui, t'as des images identiques, qui sont des images de catwalk que tout le monde peut récupérer, mais avoir un angle un tout petit peu plus différent, c'est prouver qu'on y était vraiment. Mais c'est que pour ça qu'on vit du vivant, c'est dans le but de le retranscrire en ligne. Donc c'est montrer un tout petit peu, une très 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 légère individualité par rapport à notre voisin qui aura filmé pratiquement la même chose.
Alors là, Alice, elle pose un problème qui est sans doute un trait de notre époque contemporaine. Vivre pour pouvoir dire qu'on vit. Documenter publiquement sa vie. Avant, c'était réservé à une catégorie très particulière de la population. C'était celle qu'on voyait dans les magazines, en gros. Maintenant, tout le monde peut le faire. Et beaucoup de gens le font. Alors évidemment, on peut trouver ça pathétique, cette espèce de distance avec le réel que ça crée, une sorte de schizophrénie, pour le dire avec des mots de la pathologie. Hein. Je vis un truc et aussitôt, j'en fais part sur les réseaux avec un post ou une photo. Et même, j'imagine ma vie pour qu'elle soit racontable. Mais au fond, je me demande si ça n'est pas vieux comme le monde. À des échelles plus restreintes, évidemment, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup. Les histoires arrivent à ceux qui savent les raconter. Alors, j'ai vérifié qui a dit ça. Eh ben, c'est Henry James, le grand écrivain. Fin 19e, début 20e, avant les réseaux sociaux. Donc, l'intrication entre la vie et le récit qu'on en fait, ben, c'est pas nouveau. Hein. Alors, revenons à la mode. Si j'ai bien compris, dans le fait de poster une photo de soi à un défilé, se joue une question de statut, que la photo va donc traduire en image. À côté de qui je suis, comment je suis habillé, quelle familiarité avec les voisins, etc. Mais quand même, l'arrivée de ces nouveaux acteurs du milieu, ça doit un peu bouleverser la réception du vêtement. J'imagine que ça doit changer le discours sur la mode.
Avant, c'était les journalistes et les critiques de mode qui racontaient ce qu'elles avaient vu à l'intérieur et à partir de leur avis, on se faisait une opinion. Aujourd'hui, il y a une opinion parallèle qui se fait immédiatement en ligne par les gens qui ont vu le défilé, qui ont déjà retweeté des choses, qui ont une logique du buzz qui n'est pas du tout le même que les critiques qui vont avoir un avis beaucoup plus informé, beaucoup plus intellectuel, snobinard d'ailleurs. Et à côté de ça, il va y avoir des pièces qui vont très bien marcher parce qu'il y a une certaine viralité à Instagram.
Mais genre.
Genre des crocs à talons aiguilles, par exemple, peuvent être vus comme absolument affreux, c'est mon avis, mais qui vont buzzer parce qu'il y a quelque chose, c'est toujours le facteur de l'objet étrange. Dans l'objet Instagram, on se demande toujours si on en rit, si on est une espèce de troisième degré où on y est attiré. En même temps, c'est affreux. Je pense aussi aux Uggs à cuissardes et aux crocs à plateforme. Tu te souviens des chaussures Uggs?
Non.
C'est des espèces de bottes ignobles que portaient toutes les filles, qui ont l'air de pattes d'ours et qui remontent jusqu'aux cuisses. Enfin, c'est pas très très joli.
Et ça cartonne.
T'as cartonné sur les réseaux sociaux parce que c'est l'objet étrange, c'est l'objet qui va créer un choc plutôt qu'un chic un peu consensuel qui de toute façon est illisible sur les réseaux parce que un chic un peu plus classique, ça veut dire un travail de haute couture qui est imperceptible en photo.
Et donc ça influence vraiment la fabrication même du vêtement.
La fabrication, les techniques, il faut que ce soit compréhensible et que ça attire l'œil. Donc il y a certaines règles de couleurs qui marchent mieux que d'autres.
Par exemple.
Bah il y a le millennial pink par exemple, c'est le rose.
Qu'est-ce
millennial. C'est un rose pâle qui rend tout un peu photogénique.
Voilà, le rose.
Ah ouais.
Ça va passer de la mode au mobilier, au filtre, au fond d'écran. Non, il y a des règles de photogénie Instagram qui sont complètement à l'encontre du travail classique de créateur.
Brûlez le bleu et balayez le beige. À partir d'aujourd'hui, mesdemoiselles.
Pink, 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 pink when you shop for summer clothes. Pink, 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 pink if you want that kelp for shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse.
Mais c'est assez réjouissant l'apparition de nouveaux acteurs. Ça, on l'a vu dans les réseaux sociaux en général et d'ailleurs pendant toute l'histoire de l'Internet. Les premiers blogueurs à succès, ça a quand même été quelque chose. Hein. Je me souviens du rôle joué par Étienne Chouard pendant la campagne de 2005 là, sur le référendum sur la Constitution européenne. Le type, il était prof en lycée technique, il avait épluché le traité, ce que n'avaient fait que très peu de journalistes et d'hommes politiques qui, eux, appelaient à voter oui, les yeux fermés. Et lui, depuis son site, depuis son blog, il a donné des arguments au non. On peut penser ce qu'on veut de ce qu'est devenu Étienne Chouard. Enfin, c'est quand même un moment fondamental. Je pense même que ça a participé à constituer l'Internet français, en tout cas en alternative aux médias traditionnels, pour le meilleur et pour le pire, hein, d'ailleurs. On l'a encore vu au début du mouvement des Gilets jaunes. Alors bon, j'imagine que dans un monde aristocratique comme la mode, ça peut provoquer quelque chose, l'émergence de gens qui sont pas du sérail et qui viennent proposer ou imposer d'autres goûts.
D'où la gloire des Kardashians. C'est qu'à l'époque, ils étaient à l'extérieur, mais des gros consommateurs. Et du coup, il y a toute une génération de filles qui s'est un peu reconnue là-dedans. De filles qui n'étaient pas forcément celles qu'on voyait sur les podiums, mais qui consommaient quand même. Et qui est passée par des règles de beauté beaucoup plus hétéronormées parce qu'elles touchaient un autre public. Ça va être des pièces très, avec un effet très littéral. Ça va être des trucs extrêmement sexy. Ça va sortir donc dans l'idée d'une mode fermée, bourgeoise, intellectuelle, qui est que compréhensible si tu connais l'histoire de la marque, l'histoire de la haute couture. Kanye West avait décrit, quand il avait commencé à faire des vêtements, qu'il voulait du slutty margiela. Du Margiela qui fait un peu te pue.
Mais ça, par exemple, ça effraie, ça choque vachement les rédactrices un peu.
Ah, elles sont furieuses. Ah ouais. Elles sont furieuses. Au début, il y avait la marque Vêtements qui faisait Bon, ils ont défilé dans un McDo, ils ont défilé avec des faux t-shirts UPS, tu sais, comme FedEx.
Ah ouais.
Et ça effraie complètement les critiques de mode qui, elles, n'ont pas du tout une culture des internets, ni une culture milléniale où ça les fait rire d'avoir des références. C'était toujours une espèce de troisième degré où c'est à la fois affreux et en même temps t'adores et tu sais pas et tu te positionnes entre les deux. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, est-ce que c'est une blague, c'est pas grave, c'est viral.
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Bon, il y a décidément trop de choses que j'ignore, mais quand le mode de diffusion change, ça change la réception et aussi évidemment la prescription, c'est-à-dire la critique. Ça, moi je le vois pour des domaines que je connais un peu mieux, par exemple la critique littéraire ou la critique de cinéma. Évidemment, il y a encore des médias en ligne ou pas qui font de la critique au sens le plus noble du terme. Mais est-ce que les gens se fient encore à la critique pour choisir un livre ou un film alors qu'ils voient passer sur les réseaux les avis de personnes en qui ils ont confiance, des amis ou des connaissances dont ils savent qu'ils partagent les goûts? Qu'est-ce que la critique peut faire face à ce gigantesque bouche à oreille que sont les réseaux sociaux? Donc, Je demande à Alice si c'est la même chose dans la mode, s'il y a encore des critiques de mode.
Non, il y a très très peu de critiques et la critique c'est désignée aux acheteurs. Personne lit la critique pour savoir s'ils ont aimé. En fait, tu sais très bien, normalement, t'as un espèce de sixième sens, tu vas voir surtout ce qui va te ramener du like et des followers et une crédibilité. Mais la critique, ça va plus être une critique, ça va être un like sur Instagram. Soit t'as aimé, soit t'as pas aimé. En fait, tout le monde s'en fiche de voir pourquoi tu l'as aimé, mais comment tu le portes, c'est ça qui intéresse plus la population.
Mais tu le regrettes, ça?
Mais la critique de mode, je trouve ça, c'est tellement biaisé, et c'est tellement par la même école de filles qui viennent toujours du même genre de milieu, qu'en fait, c'est plus très intéressant de lire la critique de mode, surtout que tu peux absolument pas parler des marques qui annoncent.
Donc,
si t'as une marque qui met des pubs, tu diras, tu ne peux absolument rien dire contre elle dans le journal pour lequel tu bosses.
Ok, donc toujours ce problème du mariage incestueux de la presse mode avec les annonceurs, qui sont la plupart du temps des marques de luxe. C'est sûr que c'est compliqué et que d'une certaine manière, les réseaux sociaux torpillent ça aussi. Même si, Alice en a parlé tout à l'heure, les influenceurs sont tout aussi achetés par les marques. Mais les influenceurs, ils font pas de critiques. En un sens, on s'en fout qu'ils soient payés par les marques. Tandis que les critiques, c'est un autre problème. Donc, peut-être qu'en ce sens, Instagram ne fait que finir de décrédibiliser un métier qui était suspect. Alors, bon, continuons à parler de ce qui disparaît. Il y a la critique, d'accord, mais j'imagine qu'il y a aussi une forme de commerce. D'ailleurs, je me demande à quoi servent encore les boutiques de mode. Qu'est-ce qu'elles deviennent, les boutiques de mode ?
Il y en a de moins en moins. Il y a Colette qui a fermé, qui n'a jamais été remplacée. Il y a quelques concept stores, mais c'est des concept stores qui sont des intentions lifestyle plus qu'autre chose, où tout est un peu mélangé.
Des intentions lifestyle, ouais. C'est quoi ?
Ça va être, ils vont te mélanger des bougies, un magazine sur le porno alternatif, véridique, un restaurant, ça s'appelle du retailtainment maintenant, en fait.
Donc, retailtainment, c'est quoi ? C'est la vente,
du retail entertainment. Il faut amuser les gens. Donc, tant qu'avoir une expérience tangible, il faut que ce soit vraiment que ça infantilise presque l'acheteur. Et de l'autre, il faut qu'il y ait quelque chose de joli à montrer.
Et comment s'en sortent les grosses boîtes, je sais pas, tu vois, Balenciaga ou Le Bon Marché, tu vois, qu'est-ce qu'ils font alors ?
Ils font des expos de mode, beaucoup. Il y a eu toute l'expo au Bon Marché qui était sur les skateurs, il y avait en permanence un skateur qui faisait des ollies dans un espèce de grand tube, mais c'est vrai qu'il faut toute une vie autour du produit maintenant.
Ok, mais si les gens ne vont plus dans les boutiques, ou du moins peuvent s'en passer, c'est pas pour autant qu'ils n'achètent pas de vêtements. Et là aussi, on a vu apparaître ces dernières années des sites super bien faits où on trouve des vêtements. Avec 1000 ans de retard, j'ai découvert récemment Vinted. Bon, alors, j'ai beau ne pas être un dingue de fringues, j'ai admiré. C'est très facile à utiliser, les catégories sont très bien faites, le côté vide dressing fonctionne à plein, c'est pas très cher, il y en a pour tous les goûts. Donc, j'imagine que ces sites ont des effets sur la mode.
Comme on se disait, il y a les gens qui veulent pas porter les fringues trop longtemps parce que le but c'est d'avoir une garde-robe infinie qui est renouvelée à chaque poste. Donc effectivement, il y a tout un circuit, il y a Vestiaire Collective, il y a la marque Etsy, il y a la marque Vinted, qui en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de la fripe qui est en bordel, quoi. Ça va être extrêmement bien curaté, ça va être des choses qui sont tout aussi pointues et en fait, c'est un apprentissage du stylisme plus que de la pièce. Donc ça va être des façons
Tu vois pas la différence?
Le stylisme, c'est comment tu vas assembler les vêtements. Et la création de la pièce, ça va être la pièce même, comment elle est coupée. Et sur Vinted, on voit qu'il y a un vrai regard stylistique qui est passé, en fait. Ça veut dire que...
Mais tu vois à quoi ?
Mais c'est, en fait, c'est des trucs qui sont hyper pointus. C'est les gens vont produire leurs propres vêtements. Sur Etsy, par exemple, c'est un site où les gens produisent leurs propres vêtements et c'est de particulier à particulier. Il y a une vraie culture de mode où finalement tout le monde porte, produit et assemble les habits de la même façon à la même époque.
Donc, il y a une forme, c'est une forme de démocratisation ou?
Ouais, tout à fait. C'est une forme de démocratisation. Je veux dire, si on arrive à se donner une tenue, et c'est là où Instagram a été fort, on peut jouer et n'importe qui peut se donner un look plus ou moins pointu, sans forcément passer par de l'achat. Donc, il y a de la fripe, il y a de la récupération, il y a de la mise en scène. Enfin, il y a beaucoup de façons de porter les fringues qui fait qu'on peut complètement bypass, comme on dit en anglais, l'achat des pièces classiques.
Mais du coup, est-ce qu'un certain type de travail du vêtement a cessé d'être important parce qu'il n'apparaît pas sur les réseaux ?
Il y a certains genres de broderies qu'on voit plus du tout parce que c'est invisible, en fait.
Ah ouais ? Des tout petits trucs, des tours de boutons, des choses minuscules, d'accord.
Il n'y a pas de like au tournant, c'est moins intéressant.
Ça atteint les métiers, du coup. Tu vois, les dentelières, tous les gens qui fabriquaient ce type de détails dans la...
Ah bah oui, forcément, et toutes les petites mains. Enfin, Chanel le fait encore, mais ce sont les seuls, en fait.
Le code changé.
Bon, la mode, c'est le vêtement et toute l'industrie qui va avec. On commence à comprendre qu'Internet en a déjà partiellement bouleversé la vie. Mais la mode... C'est aussi un monde de code, un monde d'autant plus intéressant à observer qu'il est hyper sélectif. Alors, ça passe par une manière de s'habiller, une manière de se tenir, de parler, des endroits où il faut sortir, être vu. Mais s'il y a des codes dans la vie physique, il doit aussi y en avoir dans la vie dans les réseaux. Je veux dire par là qu'il doit y avoir une manière d'utiliser les réseaux, de parler dans les réseaux, de se présenter dans les réseaux, qui distingue. Un exemple avec un mot que j'ai entendu, un acronyme que j'ai entendu. Bon, dans la mode, mais pas seulement, il y a des gens qui sont victimes d'une sorte de syndrome qu'on appelle FOMO. C'est un acronyme anglais pour Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Alors ces gens-là, ce sont ceux qui vont tout faire pour être là où il faut être et évidemment le montrer à tout le monde. Et comment on fait pour le montrer ? Eh ben, on prend une photo de soi dans le lieu où il faut être. Voilà, ça c'est la manifestation du FOMO. Mais j'ai entendu parler du JOMO, sans trop comprendre ce que c'était.
Le JOMO, c'est Joy of Missing Out, c'est le plaisir de voir que tout le monde est à un événement et que toi tu es très content chez toi à dormir et tu le revendiques.
Ah ouais, donc tu le mets en scène, le fait que tu n'es pas... Ça c'est le snobisme ultime quoi.
Ah oui, 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 ça va être toute la carrière de Nora Hamzaoui. Pour moi c'est rigoler du fait qu'en fait tout le monde est de sortie et nous on est devant The Voice en train de manger du houmous en legging quoi.
Mais on le photographie.
Mais on le photographie. Et on met ça en scène aussi pour dire haha, vous m'intéressez pas, moi j'ai quelque chose de plus authentique que toi. C'est une façon de dire j'aurais pu y aller mais j'ai choisi de ne pas y aller.
Alors Nora Hamzaoui, bon, c'est une chroniqueuse, actrice, humoriste. Je la connais juste pour sa chronique dans le magazine de mode Grazia. Je savais pas du tout qu'elle était adepte du JOMO. Donc, il y a des snobismes numériques dans le monde de la mode. Ça ne m'étonne pas complètement. Mais alors, je voudrais qu'Alice se fasse mon guide. Qu'elle m'explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce que j'imagine qu'il y a des gens à suivre, à ne pas suivre, à liker, à ne pas liker, qui a des manières d'entrer en contact, de montrer son approbation. Par exemple, c'est quoi le comble de la réussite pour un post Instagram ?
C'est de voir, par exemple, de se dire « Tiens, Olivier Zahm qui a la tête du purple, et aller voir ma story. »
Ah ouais, c'est formidable. Là, ça, c'est la consécration.
Ah oui, oui, c'est formidable. Tu peux commenter, mais alors le snobisme, c'est qu'il faut plus mettre de hashtag parce que ça fait trop ce qu'on dit mendiant du like. c'est une façon de choper plus de followers et c'est qui est très très mal vu.
Ça qu'il faut avoir pour ambition de choper des followers, mais jamais montrer
jamais
qu'on a
montrer.
Cette ambition-là.
Ah non, 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 il faut une photo qui soit naturellement virale, mais surtout pas tenter de le pire que je pourrais taguer, par exemple, ce serait hashtag French Girl. Qui racolera, parce que c'est racoleur comme tout, parce que c'est.
Parce que c'est quoi, c'est un tag de porno?
Ah non, 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 pas du tout, parce que c'est le truc le plus basique à mettre quand, en tant que fille française ou fille à Paris. C'est une façon d'attirer, jouer sur un fantasme. C'est une façon de dire, je veux pas du grand public. Moi, je n'ai qu'un public extrêmement pointu qui me suit.
Si tu tagues French Girl, ça, immédiatement, tu vois, tu apparais aux
dans
yeux des
gens.
Dans
tous les tags random de gens qui fantasment sur les French Girls.
Ah, ok, d'accord. Mais tu apparais aux gens des qu'il faudrait attirer comme étant vraiment super plouc.
Et racoleuse.
Ah, et racoleuse.
Ça fait, ouais, vraiment mendiante, quoi. Non, ce qu'il faut surtout pas faire dans Instagram, c'est si tu prends, il y a une étiquette Instagram, c'est si tu récupères une photo, faire semblant que c'est toi qui l'as prise. Donc il faut toujours citer la source.
Ah ouais, mais de toute façon, citer la source est un moyen de s'attirer des...
Eh bien, citer la source, c'est un moyen d'attirer plein de gens. Donc, tu vas être extrêmement minimaliste. Par exemple, je croise à sa proqui, on fait un selfie ensemble. Et après, je mets un truc cryptique, genre « me on a Tuesday », un mardi comme un autre.
Et sans taguer la personne.
Ah non, 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 tout le monde devrait le reconnaître.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Surtout sans hashtaguer. Pas hashtag j'ai rencontré à sa proqui.
Là, j'ai fait semblant de savoir qui était à sa proqui, mais je ne sais pas. Alors, bon, c'est un rappeur hyper connu manifestement. Je vis un grand moment de loose intérieur que j'essaie de dissimuler avec un hochement de tête approbateur du genre « Ah ouais, 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 taguer à sa proqui, mais c'est vraiment trop naze. »
C'est le vrai désir d'être vivant. Les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. Je sais, c'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Et plus les années passent, plus y a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire. Y a tout qui reste à faire. Sous les pavés, la plage, sur le sable, je m'étends. Je veux revoir la
Le code a changé.
Il faut continuer l'énumération de savoir-vivre dans Instagram. C'est important, le savoir-vivre. Dans la recherche du temps perdu, il y a des pages entières autour de questions de savoir-vivre. Quoi offrir en remerciement d'un séjour chez des connaissances, etc. Ça occupe comme question. Proust, il en fait de la littérature. Alors, ne jamais mépriser les questions de savoir-vivre. Il faut qu'Alice continue. Qu'est-ce qui est à ne surtout pas faire ?
Il y a aussi la saturation de la personne qui poste trop de stories par jour et ça devient intenable.
Ah oui, c'est ça, il y a une question de rythme aussi, il faut être dans le bon rythme.
Ah oui, 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 si tu en fais 18. Il y a aussi la personne qui est plus âgée, qui se trompe et qui met hashtag robe. Ça, c'est par exemple, c'est complètement inutile parce que ça n'a pas de sens et tu le retrouves au milieu de hashtag bonjour. Les parents sont connus pour hashtaguer tous les mots, hashtag je, hashtag suis, hashtag la maman d'Alice.
Et les filtres.
Il y a un truc qui s'appelle filter pity, la pitié du filtre, c'est quand quelqu'un a mis un filtre qui est plus du tout d'actualité.
Par exemple,
un filtre sépia en sortant de la salle de sport. Ça, c'est pas possible.
Parce que les filtres, ils ont une vie, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont dépassés.
C'est une connotation parce qu'ils apparaissent tous à toutes les mises à jour iPhone. Il y a toujours des nouveaux filtres qui apparaissent et toutes les mises à jour Instagram aussi. Du coup, tous les filtres qui font un peu Polaroid, un peu vieillot, sont associés à une période plus twee, comme on dit, plus mignonne et plus vintage de la mode qui est complètement passée. Du coup, aujourd'hui, ouais, il y a même un filtre qui est le no filter filter. C'est le filtre qui fait effet pas de filtre.
Ça, c'est le filtre d'aujourd'hui, de maintenant.
Ah,
c'est
oui,
quoi
oui,
le filtre
oui.
là de, qu'il faut utiliser en ce moment?
Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de filtre. Il faut juste jouer avec ces modifications pour manigancer les couleurs, mais que ça ne se voit pas. Il faut avoir l'air que d'être complètement naturel. Le filtre qui a cherché à s'embellir, aujourd'hui, c'est plus cool.
Ah ouais, ok. Ouais. C'est quoi la durée de vie d'un filtre?
Quelques mois.
Mais cette rapidité avec laquelle les codes évoluent, est-ce qu'elle concerne d'autres éléments que les éléments techniques? Je veux dire par là, je comprends que les filtres se périment vite. Les constructeurs peuvent y avoir intérêt, ou même les plateformes. Mais les positions dans lesquelles on se photographie, est-ce que ça change aussi vite ?
Tout le temps. D'abord, il y avait la fille, il y avait la blogueuse avec les pieds qui rentraient à l'intérieur pour paraître plus mignonne, ambiance poupée cassée. Après, il y a eu toutes les filles qui posaient de dos à la Nicki Minaj. Alors, je sais pas si vous imaginez, mais c'est moi de dos accroupi qui prend un selfie comme ça. Il y a le duck face. Il y avait pour les mecs se prennent toujours en photo par en bas parce que ça leur donne l'impression d'avoir une plus grande carrure, une plus grande mâchoire. Il y a la main très très relevée qui donne l'impression d'avoir une grande tête et un microscopique corps et des plus grands yeux. Donc, on lit toujours à qui la fille essaye de plaire, dépendant de comment elle va poser. Donc, si elle a un public plus ou moins hétéronormé. Mais toutes les photos mignonnes, en général, ça veut dire que c'est une fille qui va être suivie par un public de mecs hétéros, et ça va aussi varier quelle marque va travailler avec elle.
Ces questions me passionnent, j'avoue. En fait, ce que je trouve très beau là-dedans, c'est que les réseaux sociaux créent un savoir-vivre non transmis par les parents et un savoir-vivre dont les règles s'établissent par une sorte d'accord spontané et implicite. Ce que je veux dire, c'est que les règles de savoir-vivre ont pendant longtemps été transmises familialement. Elles étaient l'aboutissement d'une histoire et elles étaient très explicites. Par exemple, il y a longtemps eu des manuels de savoir-vivre qu'on faisait lire aux jeunes filles, et aux jeunes gens d'ailleurs, qui leur expliquaient ce qu'il fallait faire ou pas, comment il fallait le faire. Bon, aujourd'hui, les règles, dans les réseaux au moins, elles sont aussi rigides si on veut y paraître à son avantage, hein, mais elles sont inventées entre pairs. Elles évoluent hyper vite et elles ne sont répertoriées nulle part. En fait, si on y réfléchit, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. D'autant que les communautés sont nombreuses et elles obéissent elles-mêmes à des codes qui peuvent parfois être hyper compliqués à comprendre. La mode, donc, c'est un bon lieu pour examiner ces communautés. Et je sais qu'Alice, elle les connaît, elle en fréquente certaines de près. Donc, petite histoire des communautés autour de la mode.
D'abord, il y a une grande époque de mash-ups, donc il y a eu la tendance ghetto gothique, qui est un truc qui est né sur Instagram.
C'est ghetto gothique, ça y est.
Non, ghetto gothique, c'était le mélange d'une culture très street et d'une culture gothique qui se croisait rarement avant. La culture athleisure, qui est des vêtements de sport qu'on met pour tout sauf faire du sport. Mm-hmm. La tendance sea-punk, qui était des punks déguisés en dauphins.
C'est-à-dire?
C'est des punks, mais habillés tout en bleu des mers. Et après, il y a tout le militantisme qui s'est fondu dans le féminisme. Donc, il y a toute une communauté féministe, intersectionnelle, body positive, sexe positive. Donc, des filles à poil, des filles plus rondes, des vagues véganes qui se mettent en scène en train de manger du avocado toast, par exemple, et pas manger de la viande.
Mais en quoi ça concerne la mode, ça?
Parce que la mode aujourd'hui, c'est un lifestyle entier. C'est-à-dire que la mode est obligée de venir avec des valeurs parce que le vêtement même est tellement facilement reproductible. Je parlais au créateur de la marque Carven qui m'avait dit, moi, je veux voir mes fringues avant qu'elles soient sorties en boutique, je vais chez Zara.
Donc,
c'est copié par les marques extrêmement vite parce qu'ils ont un délai de fabrication qui est beaucoup plus court. Quand tu présentes un vêtement de luxe, 6 mois après, il va être en boutique. Zara, lui, va le reproduire en une semaine. Mmh. Et il faut, je crois qu'il y a un minimum de 7 différences, mais il y a une légalité qui est très bizarre autour des fringues où c'est très compliqué de dire, cette épaulette est à moi. Et donc, vu que les vêtements sont tellement facilement reproductibles par la fast fashion, t'as intérêt aujourd'hui à avoir une vie, une identité, un engagement politique autour. Je veux dire, là, les marques ont commencé de luxe à ne plus brûler leurs fringues, mais c'est quelque chose sur lequel elles communiquent. Employer des mannequins plus rondes, et c'est pour donner une vie à la marque qui dépasse le vêtement, parce que le vêtement, c'est plus assez.
Bon, c'est vraiment compliqué, mais j'imagine que ça peut aussi être une source d'inspiration pour les créateurs, parce que toutes ces communautés qui gravitent autour de la mode, elles sont pas seulement suivistes, on peut aussi y voir des précurseurs. Pendant longtemps, les créateurs de mode ont revendiqué de s'inspirer de la femme de la rue. Du coup, je me demande si aujourd'hui, des créateurs revendiquent de s'inspirer de ce qu'ils voient dans les réseaux.
Oui, il y a énormément de créateurs qui se revendiquent d'une école qui dispose d'internet.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est Dolce & Gabbana, dont les mannequins vont sortir et prendre des selfies sur le catwalk,
par exemple. Tu t'inspires donc de gestes qui sont des gestes liés à internet pour les mettre en scène du point de vue de la mode, du coup.
Exactement. Enfin, marque Copernic, maintenant, a fait des sacs. La tâche du sac était rappeler le rond qu'on scrolle pour se mettre en mode avion.
Ah ouais?
Ouais, ça c'était l'inspiration de tous leurs sacs. Ils avaient un sac qui reprenait le logo 4 barres du Wi-Fi.
L'idée c'est quoi là?
C'est de se dire qu'on a des nouveaux gestes et des nouvelles habitudes et des nouvelles traditions qu'on voit tous les jours dans notre quotidien, qu'on va réinsérer dans le vêtement. Mais c'est de se dire qu'on a ça tous en commun. Donc, mais ça veut dire aussi un lissage de la technologie, ça veut dire que tout le monde a un iPhone. Donc ça se limite un peu à quand même une toute petite élite.
Alors Alice, elle parle de lissage, mais le fait que tout le monde puisse avoir accès à tout, voir les vêtements qu'on fabrique et qu'on porte partout dans le monde, juste en scrollant dans Instagram, est-ce que justement ça produit un lissage, une forme de mode mondialisée ?
Ouais, mais en fait, le problème, c'est il y a eu toute la tendance et l'accusation de l'appropriation culturelle. Ce qui fait qu'au moment où les modes auraient pu toutes se mélanger, à partir du moment où la mode venait de pays blancs, si toi, en tant que personne blanche occidentale, tu cites d'autres cultures, c'était vu comme quelque chose d'absolument néfaste et c'est une forme d'appropriation. Ça a rendu la citation très difficile, donc tu peux absolument plus utiliser du wax.
Un tissu indien.
Ou un tissu africain.
Du wax même, oui.
Ouais, du tissu africain, Stella McCartney l'a fait et s'est fait complètement déchiqueter sur les réseaux. Non, ce que t'as, c'est que t'as une mondialisation de codes un peu façon Ikea, où tous les intérieurs partout dans le monde sont pareils. Et ça, on le voit chez les influenceurs, on le voit aussi sur Tinder. Mmh. C'est la culture Foursquare, comme on dit. C'est-à-dire que partout où tu vas dans le monde, tu vas trouver la même façon d'être alternatif, tu vas trouver les mêmes coffee shops, tu vas trouver les mêmes la même culture bobo. Tu sais que tu vas Strasbourg-Saint-Denis, ou Montreuil, à Williamsburg, à Shoreditch, tu vas avoir absolument les mêmes déviations. Et les mêmes rencontres et les mêmes expérimentations. Du coup, je pense qu'il y a plutôt une culture de hype qui s'est mondialisée partout.
Ok, mais question réciproque. Est-ce qu'on observe que les codes d'Instagram varient selon les cultures ? Parce que c'est quand même ça l'avantage de ces plateformes. C'est qu'elles sont mondialisées et on constate que les usages peuvent varier selon les régions du monde. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour la représentation de soi, par exemple ?
Dans tout le Moyen-Orient, un rapport différent aux selfies, à la mise en scène de soi, aux photos plus ou moins premier degré.
C'est-à-dire
De moi jolie qui fait comme ça, toute maquillée. En fait, ça dépend à quel point on a besoin du regard masculin pour être validé, qui nous suit, combien on commente, combien on félicite les gens. Ça, c'est des trucs qui culturellement vont varier.
Ok. C'est-à-dire qu'on félicite plus où que où ?
Par exemple, au Moyen-Orient, les gens vont être beaucoup plus en train de dire « ma chérie, t'es la plus belle du monde, quelle princesse », etc. Tandis que
Pas ça sur un Instagram français ?
Non, pas du tout. Tu complimentes pas, discrètement, ou tu mets beaucoup moins en scène ton amitié que tu peux le faire dans d'autres pays du monde, par exemple.
Et sur la manière de se prendre en photo ?
Sur la manière de se prendre en photo, il va y avoir beaucoup plus de mignonnerie, je dirais. Ça va être des filles ça va être des filles qui sont encore dans un truc de male gaze, où ça va être de regard masculin internalisé dans une envie d'être à la fois la mode et à la fois être jolie, quoi.
D'accord. Ce qui a disparu de l'ambition en Europe, tu veux dire ?
Les filles vont au contraire vont choisir de pas sans les dire, mais il y a une blogueuse qui s'appelle Ugly Worldwide qui a les cils et les sourcils décolorés, des spikes dans les cheveux qui peut un petit peu faire peur, qui accepte de rejeter le regard masculin. Tandis que d'autres pays du monde, ça va être t'en as encore besoin, tu vas être à la mode, mais surtout faut pas faire peur à monsieur.
Bon, je suis allé voir qui était Ugly Worldwide.
Ugly Worldwide is a fucking superhero, dude. It's gonna save the day. It's gonna save me and everybody else.
En effet, elle n'obéit pas au code de la beauté la plus évidente. Bon, en même temps, elle est très fine. Ses traits sont parfaitement réguliers. On peut pas dire qu'elle soit vraiment moche. Elle est même plutôt très impressionnante.
Sick ass bitch when I wear them, so I'm just like, have to.
Arrêtons là avec les réseaux sociaux. On a bien compris qu'ils étaient devenus essentiels dans le fonctionnement de la mode, qu'ils chamboulaient beaucoup de choses. Mais il y a d'autres voies par lesquelles la technologie travaille la mode et les vêtements. Autrement plus direct, j'ai entendu parler d'un service d'Amazon qui s'appelle Amazon Fashion. Mais je crois que j'ai pas très très bien compris en quoi ça consistait.
Amazon Fashion, c'est une marque. Ils ont lancé en fait des vêtements qui sont définis par les tendances qui ont le mieux buzzé sur les réseaux sociaux. Donc, il va répertorier le nombre de fois où quelque chose a été regrammé, comme on dit, regrammé.
Regrammé, ça veut dire ?
Ça veut dire partager.
Ah oui, partager sur Instagram.
Partager sur Instagram, okay. Voilà. Et qui va que se baser sur les choses qui ont le plus buzzé pour après créer des vêtements à partir de ça.
Et ça marche. Quoi ?
Ça marche des trucs qui sont super d'actualité, qui vont comprendre que typiquement, tiens, si on faisait un pantalon ghetto gothique, par exemple, et qui va très bien comprendre, pas tellement les tendances, parce qu'il n'y a plus de tendance à part entière qui apparaît, mais plutôt un assemblage de tendances. Du coup, ça va être la superposition de codes opposés qui va plutôt marcher, plutôt que...
Mais esthétiquement, ça donne des choses intéressantes ? Ou c'est juste des sortes de monstres de la mode ?
C'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, mais aujourd'hui on n'a plus besoin d'un créateur pour les faire. Effectivement, ça va être des dad sneakers qui sont très à la mode en ce moment, de grosses baskets, dites les baskets du papa. C'est les grandes, les baskets beaucoup trop grandes, comme le père qui est parti faire du tourisme, des pièces normcore, comme on dit, des pièces qui ressemblent à ce que mettrait un touriste américain. Donc ça va être des choses qui sont déjà dans la culture, mais qui nous évitent de dépenser un bras pour l'acheter.
Donc, évidemment, la dernière question que je me pose et que je pose à Alice, c'est quoi l'avenir qu'elle envisage pour la mode avec tout ça ?
Je pense qu'il n'y aura plus de créateurs du tout. Je pense que tout va être fait sous algorithme et que tout va être fait par le consommateur. Je pense que le consommateur va définir les tendances à porter. Enfin, tu vois qu'il y a les modes tous les 4-5 ans, on change radicalement de style et on a l'impression d'être à une autre époque. Et ça, c'est fait par les réseaux sociaux et pas la mode. Du coup, je pense que malheureusement, Facebook risque de nous habiller dans les quelques années qui viennent.
Au moins, c'est clair. Merci à Alice Pfeiffer. Elle a publié un livre très intéressant, Alice. Je ne suis pas parisienne, une sorte de critique d'un mythe. J'ai appris plein de choses, c'est paru chez Stock. C'était Le Code a changé, un podcast en partenariat avec Faber Novel.